Alors,
il y a quelques images qui sont prévues. Ah, il faudra pas voir les images. La toute première des prophéties que la parole de Dieu nous rapporte. Bon, je vais partager des images pour les enfants. J'ai essayé de faire quelque chose qui puisse marcher pour tout le monde. Donc, vous avez deviné, nous sommes dans le jardin d'Éden. Hein? Bon, on ne voit pas trop, l'image est floue, c'est normal. On ne sait pas trop exactement comment c'était. Hein? On voudrait bien savoir comment était le paradis que Dieu avait préparé de toute éternité. Mais voilà, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, comment c'était, mais on sait ce qui s'est passé. Et on sait que dans les rêves, ils ont failli. Hein? Ils ont failli à un commandement que Dieu avait donné par rapport à un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où ils ne devaient pas toucher. Et verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles, des figuiers, ils sentirent des ceintures. Alors l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel les appelle, il appelle l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et lorsque Dieu dit, et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a pris, que tu étais nu, qu'est-ce que tu as mangé de l'arbre ?»« Je t'avais défendu de manger. » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais ça ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent, il m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors, l'Éternel dit, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà la première prophétie que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Cette prophétie est donnée dans un contexte en arrière-plan, il y a un jugement. Pourquoi il y a un jugement? Parce qu'il y avait une responsabilité, il y avait des instructions que Dieu avait donné, et il y a eu un problème avec ça. Et donc, il y a aussi l'expression dans cette prophétie qui concerne le serpent, l'expression de la souveraineté de Dieu, lorsqu'il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et puis, il y a quelque chose qui est placé dans le futur et qui n'est pas daté. Ce fameux moment où la tête du serpent sera écrasée par la postérité de la femme. Et on n'a pas de date, on a quelque chose qui est dans le futur. Et donc, la prophétie, c'est aussi un jugement qui doit venir. Un jour, le serpent sait que, ben voilà, ça sera fini pour lui. Et également une espérance pour Adam et Ève que enfin par rapport à ce serpent qui l'a séduit, justice sera rendue un jour et ce sera fini pour le serpent. Et donc on trouve ces composantes. Il y a une question d'une responsabilité. Il y a la souveraineté de Dieu, on pourrait dire déjà sa sainteté, mais ça viendra au fur et à mesure. Et puis, on a un événement qui sera placé dans le futur et qui va être à la fois porteur d'un jugement et porteur d'une espérance, les deux en même temps. Qu'est-ce qu'un prophète, maintenant, puisque là, Dieu s'adressait directement à Adam, et à Ève, il n'y avait pas d'intermédiaire. Qu'est-ce qu'un prophète? Ah ben, c'est les prophètes sont les personnes qui donnent les prophéties, bien sûr. Hein. Et la première prophétie que nous présente la parole de Dieu, ah ben, c'est un faux prophète. C'est le mec hein, qui donne des prophéties. Un prophète qui donne de fausses prophéties. Et il fait le prophète et il le fait à son avantage. Vous savez, il avait pris. C'est un homme qui avait pris deux femmes et c'était un descendant de Caïn. Et il dit à ses femmes, au verset 23 du chapitre 4, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lévèque, écoutez ma parole. J'ai eu un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lévèque 77 fois. Et il fait, lui, une prophétie. Si quelqu'un me fait du mal à moi, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et ben, c'est un faux prophète, et ce qui le caractérise, ben, c'est un meurtrier. Hein. Il peut se préserver lui-même du tort, du jugement. Normalement, un meurtrier, ben, ce n'était pas quelque chose de normal. Il devait y avoir une punition. Hein. En ce qui concernait le sang de Abel, la terre criait aux oreilles de Dieu. Et là, il veut se préserver de ce jugement, et c'est une expression d'égoïsme. Donc, un faux prophète ici qui est présenté comme quelqu'un d'égoïste qui cherche premièrement son intérêt à travers les prophéties qu'il va donner. Et le second prophète, enfin le vrai, celui-là, un vrai, peut-être il y en a eu avant. C'est pas clair, mais en tout cas, il y en a un qu'on connaît tous. Voilà, vous reconnaissez hein, de qui je veux parler. Noé. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Noé? Qu'est-ce qu'on apprend sur ce prophète? Donc, la terre était parti dans tous les sens, les choses s'étaient dégradées, et au verset 5 du chapitre 6, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, chaque jour uniquement vers le mal. Au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam, Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, voici elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche, etc. etc. Et donc, Noé avait reçu, Dieu lui avait parlé, donc, hein, et il lui avait dit de construire cette arche. Et donc, la construction de l'arche, ça a duré bien sûr très très longtemps. Et donc, c'était la construction de l'arche était un avertissement. Permanent que les autres habitants de la terre pouvaient voir, pouvaient suivre, pouvaient entendre de leurs oreilles. Qu'est-ce que c'est que tu fais, Noé? Je fais une arche. Dieu m'a dit de faire une arche parce que le jugement va venir sur la terre. Et ce n'est pas pour ça donc qu'il a été écouté. Et donc qu'est-ce que c'est un prophète? Donc un vrai prophète, c'est un homme à qui Dieu a parlé. Dieu lui a parlé, lui a donné des instructions, des révélations, parce que c'est un homme qui a trouvé grâce. Hein. Il était intègre, il était juste de son temps, il marchait avec Dieu. C'est un homme également qui allait obéir, il allait faire ce que Dieu lui avait dit de faire, et c'était une entreprise pharaonique, de construire un immense bateau. Je ne sais pas si même à l'époque Et ils savaient ce que pouvait être un bateau. Et c'est plutôt un paquebot qu'un bateau. Et un homme, donc, un prophète, un vrai prophète, un homme à qui Dieu parle parce qu'il est intègre, il est juste, il marche avec Dieu et il est disposé à obéir. Et donc là, la prophétie, c'est encore une fois une histoire de jugement, un jugement par les eaux du déluge, une date qui n'est pas donnée, il n'a pas de précision sur le moment où ça va se produire, mais c'est une certitude. Et un avertissement aussi, la porte de l'arche est restée ouverte jusqu'au dernier moment. Et donc on retrouve un petit peu toujours ces thèmes d'un cadre de jugement, d'une prophétie qui se rapporte à quelque chose qui va arriver dans le futur, et donné par un homme intègre. Alors l'autre exemple de prophète que nous avons, c'est Abraham. Et là, je voudrais lire avec vous Genèse chapitre 15. Alors Abraham, voilà l'arche. Bon, c'est un dessin, hein. C'est parce que c'est comme ça. Voilà Abraham qui est parti de... qui est parti de Dur, en Chaldée, et qui a, Dieu lui a dit, voilà, quitte là où tu es et je vais te donner une terre. Et donc, la promesse également d'être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Alors, Genèse chapitre 15, il est parti. Voilà, et puis là, Dieu lui apparaît dans une nuit étoilée de Genèse chapitre 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc voilà un petit peu le Dieu qui parle à un homme. Et il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, voici que c'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Un de ses serviteurs. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ton fils donc. Et après l'avoir conduit dehors, et donc il lui dit de regarder vers le ciel, et voilà, compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et donc le ciel étoilé, bon, nous, comme on a beaucoup d'éclairage artificiel pendant la nuit, on a perdu un petit peu l'éclat des étoiles. Mais on peut imaginer ce ciel étoilé, on en a tous observé, et voilà, des étoiles innombrables. Et telle sera ta postérité. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Donc, il a cru Dieu, et ça le fait, il a été déclaré juste à cause de cela, parce qu'il a cru ce que Dieu lui avait dit. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y a une obscurité, etc. Et puis l'alliance va être scellée par Dieu seul. Et donc là, on a une autre prophétie donc, qui est donnée à Abraham. Et donc cette prophétie concerne Il y en a plusieurs concernant une postérité qu'il devrait avoir. Donc il y en a une qu'il va voir normalement de ses yeux, hein, il va avoir un fils. Et puis il y en a une autre qui est donnée pour, dans une longue période, 400 ans. Ils doivent aller dans un endroit où sa descendance sera exploitée, sera réduite à l'esclavage, et il y aura un jugement, et ils reviendront après. Donc toujours cette question de jugement et d'espérance également à travers son retour qui va être possible. Et puis il y a une prophétie encore plus lointaine dans le temps. Regarde vers le ciel, compte les étoiles, telle sera ta postérité. Et là, il n'y a pas du tout de date qui soit donnée. C'est vraiment quelque chose qui a nos limites, hein, on pourrait dire. Et donc, plusieurs cadres ici qu'on voit par rapport à l'accomplissement de la prophétie. Donc le prophète, un homme de foi, c'est un homme de foi. C'est un homme qui est obéissant, encore une fois. Abraham avait cette capacité de faire confiance en Dieu et de lui obéir. Et donc, et par rapport aux prophéties qu'il reçoit, il y en a donc dans le futur proche et dans le futur moyen et dans le futur lointain, avec des dates, sans date. Il est question de jugement, il y a toujours un message d'espoir également qui va avec cette idée du jugement. Alors la particularité des prophéties de Dieu, c'est qu'elles s'accomplissent. Et donc, effectivement, Abraham, il a eu un fils, il en a eu même deux, mais celui qui est intéressant, c'est le fils de la promesse, celui qu'il avait eu de sa femme Sarah. Donc, qui s'appelait Isaac, et donc il a pu tenir Isaac dans ses bras. Non seulement il a vu, mais il a vu également grandir, il est devenu un jeune homme. Et vous savez que sa vie a été marquée ensuite par Morija, où Dieu a testé son obéissance, et il devait offrir son fils en holocauste. Bon, Dieu l'a arrêté au dernier moment quand il a vu qu'il était prêt à obéir. Ensuite, il a eu ses descendants qui sont occupés toute cette région du pays de Canaan, sans pouvoir, en étant toujours étranger et un peu du nombre. L'histoire continue avec un de ses descendants, donc Joseph. Ça faisait l'arrière-petit-fils d'Abraham, qui avait été jeté, vous savez, ses frères étaient jaloux, et il l'avait attrapé, et il l'avait jeté dans une citerne, et puis pour qu'il y meure, puis finalement il l'avait vendu à une caravane qui partait pour l'Égypte. Et donc là, on voit l'accomplissement de deux prophéties. La première prophétie, la naissance, on a vu l'accomplissement de la naissance de Isaac. Et là, la prophétie plus lointaine qui se déroule dans le temps, celle-là, hein, et c'est pas Abraham ne va faire que la saluer de loin, sa postérité qui va dans ce pays étranger, qui est l'Égypte. Et donc c'est d'abord Joseph qui va, hein, il y va comme esclave, hein, ça, il va être serviteur, puis il va aller dans une prison, il va être emprisonné à tort, puis il va ressortir de la prison pour être placé au numéro 2 de l'État d'Égypte, de l'Empire égyptien. Il va être numéro 2 juste après Pharaon, pendant tout le temps de la sécheresse. Et pendant cette sécheresse, sa famille va venir en Égypte, et là il va y avoir une connexion qui va être établie entre Joseph et ses frères qu'il avait mis dans la citerne. Et donc il y a toute cette histoire de Joseph qui a souffert, mais qui pardonne à ses frères, qui lui demande pardon. Et finalement, c'est la retrouvaille. Et donc, le peuple, la prophétie s'accomplit. Le peuple, toute cette tribu des descendants d'Abraham qui vont venir s'installer en Égypte pendant toute la durée de la sécheresse, et bien au-delà, ils vont y rester parce qu'ils vont devenir esclaves là. Donc là, c'est notre compte de Joseph avec son papa. Jacob, et donc là, ils deviennent finalement esclaves. Donc, des prophéties qui s'accomplissent. Alors, on peut lire la fin du livre de la Genèse. Genèse, qui c'est qui voudrait lire là, pour me remplacer dans la lecture? Genèse chapitre 50, verset 22 jusqu'à Exode chapitre 1, verset 14. Elles s'accomplissent pas toutes rapidement, il peut y avoir un petit peu de temps, mais elles s'accomplissent. Et concernant les prophètes, ben, ce sont des personnes qui sont obéissantes, ce sont des hommes de foi, et ce sont des hommes à qui Dieu parle. Alors, nous sommes bien loin de ces temps-là, nous autres. Et est-ce que du temps des contemporains d'Abraham, quand un point d'Abraham avait Abraham, nous, dans le Noé, c'était Noé bien sûr, le prophète, mais pour nous, qui est notre prophète aujourd'hui? Vous savez, les musulmans, ils ont un problème de succession des prophètes. Parce qu'après Mohamed, ben voilà, il n'y a plus eu de prophète de l'islam et il y a eu des complications. Qui doit succéder au prophète? Et jusqu'à présent, ça crée des conflits. Mais nous avons un prophète qui est Jésus-Christ et qui est toujours vivant. Et pourquoi je dis que Jésus-Christ est un prophète? Ben, on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction que nous a fait Morel. La façon dont Dieu lui communiquait tout ce qu'il devait faire, il avait Dieu pour modèle, il recevait des paroles qu'il disait, il le recevait de Dieu, et en ce sens-là, il était certes le roi attendu, mais il était aussi le prophète de l'Éternel. Et donc, ce qui fait le privilège que nous avons aujourd'hui depuis la résurrection de Jésus-Christ, c'est que nous avons un prophète et qui nous parle à travers sa parole, et qui nous donne des avertissements, qui nous donne des encouragements, et qui nous montre un exemple à suivre, et qui nous donne de l'espérance également. Alors il y a beaucoup de prophéties qu'a donné Jésus-Christ sur ce qui attendait son Église. Il a beaucoup averti sur les jugements, il a vous donné beaucoup d'avertissements et il les donne parce que nous avons sa parole, nous avons la parole de Dieu et que tous ces avertissements et ces prophéties ne sont pas encore accomplis. Eh bien, elles sont encore valables pour nous et on peut les réécouter, les entendre et les méditer. Nous ne sommes pas sans prophète, nous ne sommes pas sans ressources. Et non seulement cela, mais par son esprit. Et Dieu, et on le voit à travers le livre des Actes des Apôtres, l'enseignement des Apôtres, et on le voit également à travers le témoignage que rendent les enfants de Dieu, que oui, Dieu, encore, Jésus-Christ, parle à ses enfants. Morel disait que tout le monde est au même niveau. Et Jésus-Christ a vraiment l'objectif de communiquer toute la pensée de Dieu. Toute la pensée de Dieu. Ses apôtres dans la chambre haute, lorsque Judas était sorti, les 11 qui restaient, vous souvenez de ces paroles que Jésus a prononcées. Verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, Jésus-Christ est bien sûr beaucoup plus qu'un prophète. Il est Dieu lui-même. Mais il a cette fonction de prophète pour son peuple. Le prophète par excellence. Donc on va voir un petit peu dans les va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra un petit peu ce qui concerne, ben, si on parle d'Ésaïe, il y avait la question de la loi de Moïse, parce que s'il y a des avertissements qui sont donnés, c'est par rapport à une responsabilité qu'avaient les peuples de Dieu, de ce moment-là, et nous aussi, nous avons des responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Et donc, on verra le contexte de la responsabilité des enfants de Dieu la semaine prochaine. Je vous en... Ça sera la deuxième introduction. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, merci que nous ne sommes pas. Nous sommes sans excuses. Nous ne pouvons pas dire, je ne sais pas, Dieu ne me parle pas, je suis oublié. Non, nous avons les paroles de Jésus qui sont pour nous. Elles sont consignées à la parole de Dieu. Nous avons ce grand privilège que de pouvoir même les méditer, même les apprendre, nous en saisir pour obéir, puisque... c'est le modèle que Jésus nous laisse, un modèle d'obéissance. Merci parce que le projet que tu as formé pour nous, Seigneur, ce que tu veux que nous fassions, que nous agissions, c'est personnalisé pour chacun. Il y a un cadre général et puis il y a un projet que tu as pour chacune de nos vies et dans lequel des œuvres à pratiquer, dans lequel tu nous demandes de marcher. Merci pour l'Église également, pour le soutien et la communion fraternelle. Nous te demandons, Seigneur, de nous renouveler, de renouveler ton Église, la nôtre ici, à Figeac, mais bien encore au-delà, que nous retrouvions la joie d'entendre ta voix dans nos cœurs, de t'entendre nous parler et nous raviver la flamme de l'esprit que tu nous as donné dans un désir de te servir, d'être agréable et de travailler avec toi. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Amen. On t'entend pas. On t'entend pas, mais...